des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Alors, Carl, ben, dans les nouvelles, le bilan, on le disait, on faut rester prudent. La COVID est toujours là, mais quand même, quand on regarde nos bilans quotidiens, c'est bon.
123 cas de positifs, oui, à la COVID-19 aujourd'hui au Québec. Et ça, pour mettre ça en contexte, dans l'ensemble canadien, il y en a eu un de plus au Manitoba aujourd'hui. 124 au Manitoba, 414 en Ontario. Donc, quand on compare le Québec avec les autres provinces canadiennes, on fait bonne figure. Et pour vous dire, hier, on en recensait 151. Donc, encore là, une certaine diminution dans la tendance. Dans quelle région? Montréal, 48 cas. Montérégie, 14. Donc, c'est encore...
Mais même ça, Montérégie, il y a un mois, c'était toujours en haut de 100.
Oui,
puis
ben oui.
Montréal, c'était 300.
Donc, on est très bas, évidemment. Puis, on sent évidemment ce retour à la vie normale tranquillement. Bon, on enlève
aujourd'hui,
le masque.
C'est quand même une grosse étape.
Voilà.
Plus de zone orange nulle part au Québec. Déjà que lundi passé, c'était plus de zone rouge, c'est plus de zone orange. C'est un gros changement.
Ouais.
Et au chapitre des changements, il y en a un autre qui arrive assez rapidement. C'est celui de la frontière. On n'a pas réglé le cas de la frontière américaine.
Non.
M. Trudeau a refroidi les ardeurs. Mais on a réglé la frontière avec l'Ontario.
Et donc, Mario, tu pourras t'en aller dans le parc de Sandbanks, te faire dorer la couenne pendant tes vacances si tu le souhaites. Donc, la rouverture s'applique à toute personne désirant circuler entre les deux provinces.
Niagara.
Les chutes Niagara, notamment. Et voilà, il y a plein de choses à faire en Ontario.
Ou les plages sablonneuses de Wasaga Beach.
Voilà. Et on peut même aller plus loin que ça si on le souhaite. Et donc, voilà, c'est une obligation aussi qui est levée pour s'isoler 14 jours en revenant de l'Ontario, par exemple. Vous n'avez plus à tenir cette mesure-là. Et ça avait été fermé la frontière le 19 avril dernier, justement, afin d'éviter une propagation des variants de la COVID-19. Évidemment, on n'en a pas fini avec les variants, mais pour l'heure, semble-t-il que la situation permet une ouverture des frontières.
Mercredi. C'est drôle, on sait-tu pourquoi, au milieu de la semaine, comme ça? Ou...
Ça doit être un trou de
normal. On l'annonce, puis on se donne deux jours.
Faut se donner le temps, hein, c'est ça.
C'est ça, on se donne deux jours pour s'adapter, tout simplement. COVID-19, la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé, elle fait que le virus circule plus vite que les vaccins dans le monde.
Ouais, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a aussi lancé le message aux dirigeants du G7, donner des vaccins. On sait qu'il y avait une rencontre du G7 là, la semaine dernière. Et le COVAX a livré 85 millions de doses dans 131 pays, mais on n'est vraiment pas assez vaccinés dans les pays émergents. Si donc, ça se passe bien dans les pays industrialisés.
Oui, mais dans les pays émergents, on n'est toujours pas... On n'a pas encore un premier pourcent. On était à
0,8. Et là, l'ONG, donc, l'OMS dit, écoutez, il faut que ça change, il faut que les pays donnent plus de vaccins. Et évidemment, il y a d'autres organismes comme Médecins sans frontières ou Oxfam qui disent, il faut, évidemment, oui, donner plus de vaccins. Oxfam dit également qu'il faut suspendre les brevets sur les vaccins. Ce sera une des meilleures méthodes pour augmenter la diffusion et la distribution des vaccins, évidemment. Et l'OMS qui dit, écoutez, il faudrait qu'on obtienne un taux de vaccination de la population mondiale de 70%. Idéalement, d'ici la prochaine rencontre du G7 en Allemagne l'année prochaine. Est-ce qu'on sera à 70%? Pas certain.
L'année prochaine, ben, tu vois, 22. Moi, je respecte bien gros le magazine The Economist. Et eux avaient dit, bon, tu sais, ils se font toutes sortes de déclarations politiques. Eux ont modélisé avec la population planétaire, avec la production des usines de vaccins, avec les nouveaux, comme là, Novavax va probablement arriver avec un nouveau, on va probablement avoir un cinquième vaccin. Ils avaient modélisé. Dire avec la production, combien ça prend de temps à vacciner toute la planète? Et il arrivait printemps 2023, pas 2022.
Ouais.
Vraiment d'avoir vacciné les pays d'Afrique, d'avoir vacciné partout sur Terre les pays les plus pauvres à ce taux-là, je pense que c'était 70% qui était visé. Il arrivait là, quelque part fin de l'hiver, début du printemps 2023. C'est comme s'il en restait quasiment encore pour 2 ans. Là, nous, au Canada, on va l'avoir fait, on va vacciner quasiment tout le monde en 5 ou 6 mois. Mais tu sais, on a des moyens, là, des infirmières. T'sais, on dit on manque d'infirmières, mais on a quand même du personnel formé. On a ouvert des centres de vaccination partout. On a de l'argent, on est organisé, on est efficace. Mais c'est pas tous les pays où c'est aussi facile de vacciner. Des populations beaucoup plus nombreuses que le Canada, des pays désorganisés, tu sais, avec des villes, des bidonvilles. Tu peux pas organiser des sites de vaccination aussi facilement.
Ça veut dire aussi que, bon, on a levé la quarantaine à l'hôtel, là. Ça devrait être levé en juillet, là. Mais ça veut aussi dire que la quarantaine à la maison, là, c'est pas prêt de disparaître, disons. Pour ceux qui veulent voyager, il faudra avoir des vacances de plus pour pouvoir rester à la maison après parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge.
Des milliers de doses de vaccins américains qui auraient été gaspillées parce que le Canada les a refusées.
Ben oui, il y a des vaccins disponibles aux États-Unis, on le sait, il y en a beaucoup. Et c'est le représentant démocrate de l'État de New York, Brian Higgins, qui a dit, écoutez, il faudrait vraiment faire en sorte que des Canadiens puissent venir se faire vacciner aux États-Unis. En fait, même les démarches étaient assez simples. C'est les propriétaires de l'Ambassador Bridge qui relie Windsor et Détroit qui proposaient de faire une clinique de vaccination à l'extrémité américaine du pont pour que des Canadiens et Canadiennes puissent aller se faire vacciner. Bon, ça, c'était pas vraiment possible. Ils ont proposé qu'une clinique se positionne dans le milieu du pont, à peu près à mi-chemin entre le Canada et les États-Unis. Ça non plus, ça n'a pas été accepté selon ce que rapporte Global News. Il n'y a pas de raison qui sont données pourquoi l'Agence de santé publique du Canada a refusé cette mesure-là. Mais tout de même, il y a environ la moitié des Américains qui ont reçu leurs deux doses de vaccin et il y a un peu plus de 9% des Canadiens qui ont reçu leurs deux doses. Donc, évidemment, ils sont en avance pas mal. Bon,
mais je t'annonce qu'on va les dépasser.
Oui.
Je sais pas quand, mais parce que là, le drame des Américains, d'ailleurs, Joe Biden, à la surprise générale, d'une certaine façon, ne remplira pas son engagement de population vaccinée au 4 juillet. Non pas parce qu'il n'y a pas les vaccins, il y en aurait pour se noyer dedans. Non pas parce qu'il n'y a pas les vaccinateurs, les cliniques, ça vaccine partout dans les pharmacies. Parce qu'il n'y a pas les bras, parce qu'il n'y a pas les gens prêts à aller se faire vacciner. Ouais. Il y a trop de gens qui ont des craintes par rapport aux vaccins. Et là, il y a une thèse complètement farfelue. Écoute, quand je l'ai vue la première fois, mais je riais. Mais là, tu vois, j'ai entendu, quelqu'un me racontait récemment que même une de ses connaissances qui était dans le secteur de la santé hésitait à avoir sa deuxième dose, cette thèse que le vaccin serait magnétisé, qu'il y aurait du métal magnétique dedans, puis que les personnes vaccinées, les ustensiles, on peut quasiment pas le dire sans rire, que les ustensiles collent après eux.
Ben oui.
Puis là, ils disent qu'ils ont vu des exemples sur YouTube de ça.
C'est donc ça, la spatule dans le front que tu avais tout ce temps. Mais oui.
Non, mais Titi, voyons
oui, donc. En plus, c'est que simplement le match de hockey qu'il va avoir ce soir à Vegas, ça va être plein, là. Donc, ça ressemble pas mal à la vie normale quand tu regardes ça.
Oui.
Où est l'intérêt quand t'es pas vacciné? Tu vois ça? Ben, écoutez, je peux comprendre que des gens qui sont craintifs n'y vont pas, mais c'est un problème qui est assez énorme, là.
Mais, donc, c'est ça. Donc, les Américains... Ils risquent d'avoir des doses de vaccins à donner en masse, et alors qu'eux-mêmes n'auront pas une couverture suffisante dans leur population.
Oui.
Je leur souhaite bien que, moi, si le variant Delta arrive là, comme il arrive au Royaume-Uni, avec autant de populations non vaccinées, les non vaccinés vont peut-être avoir des mauvaises surprises. C'est peut-être ça qui va motiver la vaccination.
D'où cette idée de vacciner des Canadiens avec le pont Détroit-Windsor, parce que ce sont des doses qui doivent être utilisées rapidement. C'est pas des doses qu'on peut envoyer là justement dans des pays émergents. Là.
Mais une collaboration du même genre, je pense, entre le Dakota du Nord et le Manitoba, là, entre les deux gouvernements. Donc il y a les camionneurs, c'est ça, c'est que les camionneurs manitobains peuvent se faire vacciner dès qu'ils traversent du côté américain. Là, il y a la première halte routière. Et les Américains aiment mieux que les camionneurs canadiens soient vaccinés. Les camionneurs canadiens, eux autres, ça accélérait leur vaccination, puis tout le monde était heureux. On l'a effleuré tout à l'heure, l'Angleterre qui repousse d'un mois la levée des dernières restrictions. On devait finir ce plan de déconfinement ces jours-ci, mais on ne se sent plus prêt.
Voilà, 4 semaines jusqu'au 19 juillet. Pourquoi? En raison du variant Delta qui est récemment apparu en Inde. On est vraiment très préoccupé par ce variant-là en Angleterre et qui voyage plus rapidement que prévu. Et justement, donc, l'Angleterre qui prévoyait une réouverture le 21 juin, faut attendre au moins jusqu'au 19 juillet pour donner le temps aux services de santé de prendre les mesures nécessaires parce qu'on sait, là c'est le variant Delta, il y en aura probablement d'autres, mais évidemment, on sait qu'il y a une reprise de la vie normale, mais tout ça est encore très, disons, très, très faible.
Mais dans le cas de l'Angleterre, c'est ça. Dans le cas du Royaume-Uni, ils sont... C'est assez frappant. Là. Ils sont à 15 000 cas. En fin de semaine, 15 000 nouveaux cas, mais seulement 20 décès. Fait que, tu sais, il y a comme un côté rassurant à dire, OK, au niveau de la gravité des conséquences de la COVID, la double vaccination protège. Je serais quand même curieux. On n'a jamais ces chiffres-là, mais je serais quand même curieux de savoir, mettons, les 20 décès là, qu'il y a eu en fin de semaine. Mettons, sur 20, est-ce qu'il y en a... Est-ce que c'est 15 non vaccinés puis 5 vaccinés? Est-ce que c'est 10-10? Ou est-ce que c'est 20 personnes non vaccinées? Je serais quand même curieux d'avoir. Parce que là-bas, ils ont une claire majorité de la, je pense, sont rendus à 70%, 75% de la population qui a une dose, un autre 50% qui a deux doses. Donc, ils sont très vaccinés, là. Mais je serais curieux de voir ceux qui décèdent, là, d'où ils émergent, là. Pas vaccinés, vaccinés une dose, vaccinés deux doses. Je serais curieux. Il y a probablement qu'il existe dans le pays là-bas le détail de ça.
des proportions incroyables, c'est ça, 15 000 cas, 20 décès.
Normalement, 15 000 cas, t'aurais des centaines de, t'aurais des centaines et des centaines de décès. On sort de la COVID un peu. Réforme de la police, le service de police de Longueuil qui se lance dans une initiative expérimentale, quand même, mais assez audacieuse.
Assez audacieuse. C'est un stage de 5 semaines sans armes et uniformes pour des nouveaux agents, en fait, qui vont être triés sur le volet, qui feront partie d'une nouvelle équipe surnommée Policiers Réseau, qui sera destinée à travailler auprès des personnes les plus vulnérables. On pense, par exemple, avec des personnes aux prises avec des problèmes de dépendance, des personnes en situation d'itinérance ou des victimes de violences conjugales, d'agressions sexuelles ou de maltraitance. C'est un projet de 3 600 000 $, donc de l'argent qui a été versé au service de police de l'agglomération de Longueuil. Un stage de 5 semaines, donc, pour but de sensibiliser et influencer les futurs agents. Mais ça, ce que ça veut dire, Mario, c'est un stage. Donc, ces agents-là, quand ils entreront en fonction, ils auront uniforme et armes. Mais pour la durée de ce stage-là, on veut les initier d'une autre manière au travail policier, justement pour qu'ils puissent peut-être observer plus discrètement ce qui se passe.
Comprendre les perceptions, les mentalités, les craintes. Voilà.
On sait aussi qu'il y a des gens qui réagissent très fortement quand ils voient des agents de police sans nécessairement avoir quoi que ce soit à se reprocher, là. Donc, c'est un stage de 5 semaines et la sélection des policiers va se faire cet automne, devrait être sur le terrain à compter de décembre prochain.
On va surveiller, on aura sans doute un rapport d'expérience,
ben oui.
Parce que je pense que si on fait ça, c'est parce qu'on aurait idée d'élargir ça à l'ensemble des corps policiers, dans tout le grand esprit de changer les façons de faire. Ouais. Moi, je trouve ça intéressant, mais le travail policier va rester du travail policier à la fin.
Puis, qu'il y ait des agents communautaires sans armes, c'est une chose, mais évidemment, ça éliminera jamais tous les policiers. Ça, il faut être conscient de ça, évidemment.
Oui, puis je veux dire, un jour, mettons que tu avais ça, là, parce qu'il y en a qui disent ça, il doit y avoir dans tous les services de police présence des policiers qui se promènent sans armes, mais je veux dire, il va arriver un jour une intervention violence conjugale ou comme au cégep de Dawson. Puis là, on va dire, ben là, il y avait un policier qui était à 100 pieds de la porte, là, mais tout ce qu'il y avait dans ses poches, c'était un stylo, là. Fait que, il a rien fait.
Ouais. Fait que c'est ça. Il a couru longtemps, mais la matraque, elle se rendait pas.
C'est pour ça que c'est plate, le travail policier. On voudrait tous vivre dans une société pacifique où c'est pas nécessaire que personne soit armé, mais c'est malheureusement pas la réalité. L'auteur de l'attaque de London, qui est repassé en cour ce matin, et on a ajouté des accusations.
Oui, voilà. Et donc, la couronne qui a expliqué lundi que les 4 accusations de meurtre et de tentative de meurtre qui pesaient contre Nathaniel Veltman, 20 ans, ainsi que ses motifs suffisaient, selon eux, à ajouter une accusation de terrorisme. C'est un nouveau développement qui survient au lendemain des funérailles de Salman Afzal, 46 ans, de sa conjointe Madia Salman, 44 ans, de leur fille Yumna Salman, 15 ans, et de la grand-mère Talat Afzal, qui a 74 ans, qui ont été célébrés samedi à London. Donc, le suspect est accusé d'avoir percuté de plein fouet la famille musulmane de 3 adultes et l'adolescente sur le coup, en blessant également un enfant de 9 ans très grièvement. Et donc, la police de London avait rapidement conclu, après son arrestation, que le geste était délibéré. Ce sont des accusations qui sont généralement difficiles à prouver.
Ben, c'est-à-dire que pour avoir un terroriste, il faut que tu prouves d'abord un motif politique. Je pense un motif politique ou religieux, je pense que dans ce cas-là, il est prouvable.
Ouais.
Mais il faut que tu prouves plus que ça. Parce qu'il faut que tu prouves, pour que l'acte soit terroriste, il faut que tu prouves que au nom du motif, tu faisais un geste soit pour faire peur à la société, pour faire chanter le gouvernement. T'sais, c'est ça du terroriste. C'est de faire peur ou d'influencer l'autorité constituée, autant le peuple que son gouvernement et tout ça. Et c'est plus difficile à prouver, surtout si c'est pas revendiqué, si c'est un geste comme isolé comme ça, qu'il l'a pas revendiqué. Quand un groupe terroriste revendique un attentat terroriste en disant on a fait ça pour obtenir telle chose ou pour punir le gouvernement, là, il y a comme la définition de terrorisme est faite par la revendication. Là, t'as un individu qui agit seul. Bon, est-ce que sa motivation... Le fait que la motivation soit religieuse ou de haine, ça semble clair. Mais est-ce qu'il y avait une pensée terroriste derrière
structurée, et c'est d'ailleurs la première fois qu'un Canadien se retrouve accusé de terrorisme à la suite d'un attentat islamophobe. Le tueur de la mosquée de Québec avait échappé à ce type d'accusation. On se rappelle que des accusations de terrorisme avaient été déposées contre Raed Jasser et Chieb Essegayer, là, le complot contre Viaray.
Ouais.
Mais c'était pas un attentat.
Ça, c'était un complot, c'est ça.
Donc voilà, évidemment, donc des accusations de terrorisme, mais très difficile à prouver ces accusations, donc voilà.
Les forces armées canadiennes encore secouées. j'allais dire par un scandale, je devrais dire par une partie de golf, là, mais partie de golf qui a des conséquences.
Ça ne s'invente pas, Mario. En fait, le numéro 2 Michael Rouleau, qui était donc celui qui dirigeait la police militaire, est allé jouer au golf.
Et de facto dirigeait la police, donc les enquêtes militaires, voilà. Comme celle sur Jonathan Vance, l'ex-chef d'état-major.
Ils étaient allés jouer au golf ensemble ce week-end. Ils étaient trois, donc, et ça avait été confirmé par le Globe and Mail. Mais là, évidemment, le général en question, Michael Rouleau, a quitté ses fonctions aujourd'hui parce qu'il y avait non seulement apparence de conflit d'intérêts, mais évidemment, il y a beaucoup de questions.
Mais tu sais, l'image que ça donne, tu dis, OK, ils ont l'air à prendre ça au sérieux, son enquête.
Oui, non, c'est ça.
On va jouer au golf avec l'enquêté.
Donc, quel impact sera sur... Parce que ça brasse, là. On s'entend, l'état-major des Forces armées canadiennes, on sent que la question des inconduites sexuelles a vraiment beaucoup perturbé le fonctionnement, qu'il y avait des gens qui avaient des choses à se reprocher. Puis là, bon, ben il y a une proximité aussi à travers ces gens-là. Mais la partie de golf,
c'est pas qu'il y a une proximité, puis c'est des ex-collègues de travail puis tout ça, mais quand même là, c'est, puis en plus la partie de golf se déroule au club de golf des militaires.
Ouais.
Donc tu sais que t'auras sur place uniquement des gens qui sont toutes sortes de haut gradés, moyen gradés et autres, ouais. Mais de l'armée. Donc veux pas, par le bouche à oreille, toute l'armée va le savoir. Là. Toute l'armée, ouais, va savoir que le gars incluant des plaignants. Le gars qui est enquêté, écoute, c'est tellement grave son enquête, tellement pris au sérieux que son enquête, que le numéro 2, responsable de la police militaire, joue au golf avec lui en fin de semaine.
Quelle image ça peut envoyer aux victimes alléguées, aux plaignantes potentielles, évidemment. Et le principal intéressé, là, Michael Rouleau, a dit « Je suis saisi par l'enjeu. Bon, je souhaite vous dire que je reconnais pleinement que ma décision de faire cette activité a intensifié les événements récents, puis que, évidemment, ça a contribué à éroder davantage la confiance. Puis, évidemment, c'est excusé de ce geste-là. »
L'autorité palestinienne qui est soulagée du départ de Netanyahou?
Soulagée, mais peu optimiste. Mais on a dit que le premier ministre palestinien, Mohamed Shtayyeh, a dit que c'était l'une des pires périodes du conflit entre les deux pays. Mais par contre, considère pas que le nouveau gouvernement apporte beaucoup plus d'espoir, le nouveau premier ministre.
Le nouveau gouvernement, là, c'est très difficile de se faire une idée de ce que va être sa politique vis-à-vis des Palestiniens, ouais. Parce qu'il est tellement... Tu sais, ça va d'allier des Palestiniens, de députés arabes, musulmans, jusqu'à l'extrême droite qui prônait la ligne très, 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 très dure avec la Palestine. Donc, tu dis, c'est tellement multicolore, multifacette, ouais, comme opposition. Tu dis, quelle sera leur ligne sur la question palestinienne? Bien malin celui qui pourra la deviner.
Ouais. Pour l'instant, regardons la composition partielle, mais le premier ministre Naftali Bennett, lui, c'est un représentant de la droite radicale et proche des colons israéliens. Donc, est-ce qu'il aura le poids au sein de ce gouvernement-là pour orienter totalement la politique? Mais évidemment, c'est pas évident. Puis, le mouvement Hamas a également, lui, dit que le nouveau gouvernement ne change rien à la question. Mais on souhaite évidemment que ça pèse dans le secteur, mais on verra au cours des prochaines semaines.
Tu veux me parler de Roger Waters?
Il est coloré, Roger Waters, et il a insulté Donald Trump à plusieurs reprises, oui, depuis quand il était en fonction. Eh bien, l'ancien chanteur de Pink Floyd était dans une conférence de presse ce matin pour demander la libération de Julian Assange. Jusque-là, tout va bien. Mais... plus tôt dans la journée, il avait reçu un message de Mark Zuckerberg lui-même qui lui demandait de l'autorisation d'utiliser la fameuse chanson Another Brick in the Wall Part 2, donc la chanson de l'école, là, ouais, celle que tout le monde connaît, pour être utilisée dans une pub d'Instagram. Je te le donne en mille. Qu'est-ce qu'a répondu Roger Waters en français? Mange donc du sable. Je te l'ai traduit, mais non, puis... No fucking way, vous m'excuserez. Donc, parce que Roger Waters, sa fortune, elle est faite, on s'entend.
Oui, il attend pas après ça. Le dernier contrat de publicité.
Et il dit également, écoutez, Mark Zuckerberg, c'est quelqu'un qui lutte contre à peu près tout ce pourquoi je me bats, c'est-à-dire la liberté d'expression. Selon lui, dans un monde où Facebook et Instagram sont encore plus puissants, ben, sa sortie pour demander la libération de Julian Assange pourrait être censurée. Bref, la réponse, non, je ne te vendrai pas la chanson.
Merci, Carl.